Bonjour, vous écoutez Radio FM Plus 91 FM. L'enregistrement de la conversation se tient à Marseille chez Françoise Guichard. Le long d'une série de 5 émissions, Françoise Guichard et Jean-Paul Brigelli dérouleront leur fil du fer. Les deux sont amis depuis 25 ans. Le sujet de leur conversation dans ce fil du fer, devenir soi par le professorat. Bonjour Jean-Paul, bonjour Françoise. Françoise, vous avez été étonnée que je vous propose cette sorte d'enquête conversationnelle qu'est le fil du fer. Vous m'avez cité le chanteur Robert Charlebois, je suis ben un gars ben ordinaire. Pourquoi cette drôle d'idée, Françoise ? Votre parcours ne vous semble-t-il rien pouvoir déclencher dans les aspirations d'autrui ?
Alors, soyons clairs, j'ai une tripotée de mes anciens étudiants et anciennes étudiantes qui sont devenus professeurs de lettres, à une époque j'aurais dit grâce à moi, maintenant je dirais par ma faute. Et pourtant, je les avais mis en garde les dernières années en leur disant « faites n'importe quoi, mais surtout pas enseignant, vous allez au-devant de grandes déceptions parce que le métier tel que je l'ai connu et aimé n'existe plus. » Donc, à mon grand désespoir, si je puis dire, j'ai suscité des vocations et c'était peut-être malheureusement donner des idées un peu trop optimistes sur le métier, compte tenu de ce que les gouvernements successifs de toutes les couleurs en ont fait. Donc, je ne pense pas être exemplaire et en plus, je n'ai jamais eu la prétention de l'être.
Jean-Paul, que pensez-vous des explications que vient de donner Françoise, vous qui la fréquentez depuis 25 ans ?
Alors, je vais vraiment faire preuve de l'humilité qui me caractérise. Plus on est un bon prof, plus on déclenche des vocations. Et plus c'est une erreur. Parce que c'est un métier que l'on ne peut faire sérieusement que si l'on est très bon. À ce moment-là, on le fera non seulement sans grande difficulté, bon, il y a des moments épuisants, mais sans grande difficulté, avec beaucoup de joie même dans certains cas, etc. Et avec pas mal de profit pour les élèves. Dès qu'il y a la moindre difficulté de départ, si on n'a pas, si on ne dispose pas de ce concept qui est très discuté, mais auquel je crois, qui est l'autorité naturelle, si on n'a pas un instinct de comédien extrêmement poussé, et surtout si on n'a pas une culture dans la discipline que l'on enseigne extrêmement poussée, mais vraiment, quand je dis extrêmement poussé, il faut bien comprendre. Hein, il y a quelques années, sous le règne de ce terreur de la nature qui s'appelait Vallaud-Belkacem, on a pensé faire un concours de recrutement où les sujets porteraient sur les programmes. C'est-à-dire que vous allez enseigner en sixième, on vous demande de maîtriser les contenus de sixième. Ça ne pouvait germer que dans la tête de gens parfaitement incompétents qui n'avaient jamais enseigné, parce que plus vous enseignez des choses élémentaires à des classes élémentaires, et plus votre culture derrière doit être saisissante. Parce qu'à un moment ou un autre, un élève va vous poser une question qui va vous obliger à plonger très en avant dans vos connaissances. Pour prendre un exemple tout bête, hein, pour expliquer à des élèves correctement la règle fameuse de l'accord du participe avec le COD antéposé, les arbres que j'ai plantés, il faut aller chercher la grammaire italienne, il faut aller chercher Marot, il faut aller chercher les rapports de la poésie française avec les cours italiennes dans les années 1530. Il faut aller chercher une certaine fixité de la grammaire telle qu'elle a été décidée après la création de l'Académie française en 1635. Ça demande un éventail de connaissances absolument infini. C'est pareil en maths. Je rappelle que la partie des maths la plus compliquée, c'est l'arithmétique. 1 plus 1, ça passe encore. À 2 plus 2, le brouillard commence. Hein? Et alors, dès qu'on va dans des choses un tout petit peu complexes, mathématiciens, on va dire non-experts, s'en sortent en disant bah, « c'est un axiome ». Voilà, c'est comme ça. Ouais, ouais, c'est comme ça. Explique-moi. Hein? Donc, si vous voulez... Alors, on est prof de lettres tous les deux. Pour expliquer un texte, hein, il faut supposer, à peu de choses près, connaître tous les textes que l'auteur a lus. Parce qu'on fait de la littérature avec de la littérature. C'était Valéry qui disait « Rien de plus soi que se nourrir d'autrui, le lion est fait de moutons assimilés ». Donc, il faut connaître tous les moutons pour expliquer le lion. Voilà. C'est donc un métier incroyablement difficile. Notre exemple, mettons, vous êtes prof d'anglais, et comment est-ce que vous allez expliquer qu'après « when », alors qu'on attend un futur, on va utiliser le présent ?« When I'm 64 », disent les Beatles. Eh bien, il faut passer par le français et s'apercevoir que la désinence du futur en français, c'est le présent. Je mangerai, manger, infinitif présent, et le « et », c'est la désinence du verbe « avoir », finalement. Voilà, le futur, c'est fait avec du présent. Allez expliquer ça à un gosse de sixième, tiens, si vous ne le savez pas.
À propos de l'ancien ministre, je vous connais, je vous laisse les propos, même à la radio, ils vont faire, voilà, le dire en tout cas. Ah, je l'ai entendu. Pour chaque fil, je veux tenter de tirer un portrait de ce qui fait de mes invités, au fil de leur vie et de leurs actions, l'individu public et privé qu'ils sont. L'inverse est aussi vrai. J'essaye de faire entendre, comme exemple humain à proposer aux auditeurs et auditrices, pourquoi et comment ce qui constitue le caractère et l'âme de tel ou tel les décidèrent à mener tel ou tel projet, tel ou tel combat, à prendre position face aux autres, mais aussi face à eux-mêmes, comme on s'accueille par le regard porté dans un miroir. Françoise, dans ce miroir imaginaire, que retrouvez-vous des traits moraux et des convictions de vos parents et de vos ancêtres ? Qui voyez-vous des caractéristiques et des leçons que vous ont apprises de la ville et la région qui vous ont vu naître et leurs habitants ?
Alors, on va commencer par les ancêtres, quand même. Bon, je parlais tout à l'heure de mon père, qui, donc, en 1943, a déserté des chantiers de jeunesse pour rejoindre le maquis d'une personne dont il ne savait pas qu'il était un des plus grands poètes français du XXe siècle, René Char. Donc, bon, un père comme ça, ça oblige, forcément. Bon, il y a des modèles, certes, peut-être plus littéraires, plus artistiques, mais c'est vrai aussi que il y a des exemples qui sont donnés comme ça, non pas en parole, parce que papa n'avait pas tellement parlé de cette période-là, dont il n'avait pas forcément de très bons souvenirs. La démarche même, quoi. Bon, tu as 20 ans, tu vas au maquis, tu vas passer des années. Je sais que les quelques fois où il en parlait, il disait que son principal souvenir, c'était d'avoir eu peur tout le temps. J'ai des souvenirs de petite fille. Bon, je suis née en 53, donc c'est quand même bien après la guerre. De papa se levant en plein milieu de la nuit parce que dans la rue, il y avait eu une voiture qui s'arrêtait, une porte qui claquait, et papa qui sautait du lit en train de chercher ses affaires, à moitié endormie, et maman qui lui disait « Mais non, recouche-toi, la guerre est finie, quoi. » Alors ça oblige. Alors, vous affolez pas, il y a un petit toutou derrière, là, qui revendique. Donc ça, c'était pour les ancêtres. Bon, j'ai eu deux grands-mères aussi, très, très aimantes, qui chacune avait des dons, l'une pour la couture, l'autre pour la cuisine, et qui m'ont servi de... Oui, de guides, d'images, des femmes bon, de milieux complètement différents, hein, une grande bourgeoise d'un côté, une paysanne de l'autre. Et puis, bien sûr, bon, il y a la librairie. Quoi. Mes parents étaient libraires, et ça, c'est vrai que ça a été extrêmement important dans ma vie. Vous savez, Sartre écrit dans ses mémoires « J'ai vu le jour au milieu des livres ». Bon, lui, c'est une image qu'il emploie. Mais moi, j'ai vraiment failli voir le jour au milieu des livres parce que maman a été prise des premières douleurs dans la librairie. Et heureusement, heureusement que la clinique où l'on accouchait était à l'autre bout de la place parce que sinon, je serais vraiment née au milieu. Au milieu des livres stricto sensu. Et là, bien entendu, cette librairie qui a été pour moi une vaste bibliothèque, puisque le contrat était très simple, tu prends ce que tu veux dans la librairie, tu prends n'importe quel livre, mais si tu l'abîmes, tu le payes. D'où mon grand respect envers l'objet livre et mon indignation face aux vandales qui plient les pages plutôt que qui cornent les pages plutôt que de mettre des marque-pages. Suivez mon regard.
C'était en direction de Jean-Paul Bricalli.
Voilà, naturellement. C'est vrai que bon, c'est pas très télégénique. Oui, honnêtement, je ne me voyais pas faire autre chose. Alors, quand j'étais petite, je voulais être institutrice, hein, mais je ne me voyais pas faire autre chose que libraire ou enseignante.
Devenir professeur, Françoise, vous venez de lire, était chez vous une évidence dès l'enfance. Petite, vous vouliez donc grandir et devenir institutrice. Vous m'avez dit que pour vous, enfant, une maîtresse savait tout. Et pouvait tout expliquer. Oui. Ne pas savoir, ne pas comprendre, s'inquiéter très tôt de cela, n'est-ce pas voir le monde comme un ogre toujours sur le point de vous dévorer si vous ne connaissez pas la manière de lui échapper ou au moins de l'attendrir ?
Ah non, c'est l'inverse, c'est un mystère inépuisable. C'est ça qui est passionnant, c'est pas du tout un ogre qui vous bouffe, c'est une caverne que vous n'avez jamais fini d'explorer. C'est stimulant, oui, on ne peut pas être pique de la Mirandole, c'est dommage, mais on n'arrête jamais d'apprendre.
Qu'en pensez-vous, Jean-Paul ?
Je vais rebondir sur la métaphore de la caverne. C'est mon interprétation personnelle de l'histoire d'Ali Baba. Ali Baba, pauvre parmi les pauvres, hein, a accès à la caverne où les voleurs ont entreposé depuis des générations. Le fruit de leur butin, j'ai toujours vu ça comme une bibliothèque. Vous savez, il y a une lecture symbolique des contes, etc. Ali Baba s'enrichit de tout ce qu'il a trouvé et s'enrichit d'une façon intelligente. Son frère, Kassim, lui, se monte, si je puis dire, une bibliothèque comme certains qui achètent des volumes de la Pléiade au maître. Là, vous voyez, voilà. De la même manière, par exemple, l'histoire du Petit Poucet, c'est une histoire sur comment est-ce qu'on écrit. On écrit en prévoyant les petits cailloux blancs que l'on va disposer au fur et à mesure de son récit et qui serviront de borne repère, en quelque sorte. Quant à la question de l'influence de l'enfance là-dedans, bon, c'est très simple, ça a commencé par mon nom. On m'a appris très tôt que Brighelli, c'était le pluriel, nom de famille en italien, hein, de Brighella, personnage de la Commedia dell'arte au milieu du XVIe siècle. Qu'est-ce que c'est que Brighella ? C'est un valet, larron, blasphémateur, buveur du vin de son maître, trousseur de filles, etc. Il va donner par la suite Scapin, Figaro, voilà. Oui, effectivement, ça vient de Plaut, etc. On n'a jamais su dans la famille si on avait eu un ancêtre qui était comédien spécialisé dans le rôle, ce qui était le cas très souvent, hein, ou si on avait un ancêtre qui avait les caractéristiques du rôle auquel ses voisins avaient dit « à la espèce de Brielle ». Voilà. En tout cas, j'étais sommé de respecter cette tradition familiale. Mon père me disait, j'avais 8 ans, hein, « Jamais tu auras autant de femmes que moi. » Alors bon, quand vous êtes sommé de d'égaler ou de dépasser un record, bah, vous dépassez le record forcément à un moment ou à un autre. Jamais tu n'auras lu autant de livres que moi. Alors, je l'ai laissé très très loin derrière à un certain moment, etc. Et on est effectivement chez Françoise ici, on est environné de livres. Chez moi, c'est encore pire. J'ai calculé, j'en ai à peu près 5000 que je vais petit à petit faire disparaître pour essayer d'en garder une dizaine. J'ai trouvé l'idée chez Montalban. Pepe Carvalho, petit à petit, élimine les livres de sa bibliothèque parce que, finalement, quand on meurt, il vaut mieux que le bagage soit léger.
Comment êtes-vous devenu agrégé de lettres classiques, Françoise ? Vos parents vous avaient demandé de passer un bac scientifique et vous l'avez obtenu.
Absolument, je l'ai obtenu, mais tout en continuant à faire du latin et du grec. C'était une section qui s'appelait C2, où on avait à la fois le programme... Alors C, la section C, c'était maths, physique, chimie. Et après, il y avait C1, C2, et C2, c'était latin, grec, maths. Donc j'ai continué les langues anciennes jusqu'en terminale. Donc j'ai eu mon bac à 17 ans. Et après, effectivement, bon, c'est ce qu'on pourrait appeler une erreur d'orientation, mais c'était aussi peut-être, je pense, inconsciemment plus... moi, une volonté familiale de me voir m'orienter vers quelque chose qui soit du scientifique, du solide, du sérieux, machin. Toujours est-il que j'ai fait ma maths sup où je me suis beaucoup ennuyée, mais bon, j'ai fait le job, j'ai rempli le contrat, je passais en maths spé, et puis là, quand même, j'ai dit non, là, c'est pas possible, je peux pas, je me vois pas continuer dans cette filière, je me vois pas faire des années en école d'ingé, je ne vois pas du tout devenir ingénieur, c'est pas ça mon truc. Et donc, je suis repartie vers les lettres. Alors, pourquoi les lettres classiques plutôt que les lettres modernes ? Parce que le latin et le grec, ma foi, je suis tombée dedans quand j'étais petite. C'est l'époque où on commençait le latin en sixième. J'avais 10 ans quand j'ai commencé le latin, puisque j'avais un petit peu d'avance sur mon âge. J'ai commencé le grec en quatrième et j'ai tout de suite eu le coup de foudre. On parlait de coup de foudre à propos de l'amour ou de l'amitié, mais on peut aussi parler de coup de foudre par rapport à une matière. Alors c'est vrai aussi que, et là je voudrais lui rendre hommage, j'ai eu une professeure de grec absolument merveilleuse qui s'appelait Madame Kerel, qui est la maman d'ailleurs d'un helléniste reconnu qui s'appelle François Kerel et qui fait autorité dans son domaine. Et c'est vrai que là, je voudrais publiquement remercier Madame Roselyne Kerel, qui m'a donné l'amour du latin et du grec, et qui m'a donné envie de faire comme elle.
Comment dit-on non à des modèles parentaux aussi forts que les vôtres ? Est-ce que ce nom est venu de la littérature ? Est-ce que ce nom est venu de l'éducation que vos parents vous ont donnée ?
Certainement pas de la littérature. J'ai essayé, j'avais 18 ans à ce moment-là, à la fin de ma maths sup, j'ai essayé d'expliquer les choses clairement, simplement, en disant écoutez, voilà, j'ai fait le job, je ne m'en vais pas sur un échec, je peux passer en maths spé. Mais franchement, je sens que ce n'est pas ma voie, et donc je n'irai pas plus loin. Et ils m'ont entendu.
Nous arrivons au moment de la pause musicale. Pour cette pause musicale, Françoise, vous avez choisi de faire écouter Peace Peace de Bill Evans. Est-ce que vous pourriez expliquer votre choix ?
Parce que vos auditeurs vont l'entendre dans quelques minutes. C'est un morceau absolument fabuleux. D'abord, Bill Evans est un très très grand pianiste. Alors pour ceux qui ne le visualisent pas, il ressemble beaucoup physiquement à Glenn Gould. C'est un peu le même type de physique et le même type aussi de jeu, un peu plié, même très plié, sur son piano. Et ce morceau, Peace Pieces, les morceaux pour la paix, des morceaux d'une très grande sérénité, avec de très belles mélodies, une belle respiration. J'avais envie d'écouter ça et de le faire découvrir éventuellement à vos auditeurs.
Vous écoutez Radio FM+, 91 FM. Françoise Guichard et Jean-Paul Brighelli, deux amis de 25 ans, sont au micro du fil du fer. L'une et l'autre se disent la place de l'amitié dans la construction de leur identité et le déroulement de leur fil du fer. Savoir et le savoir, qu'est-ce que c'est, Jean-Paul ?
Alors, le savoir, c'est à la fois quantitatif et c'est surtout qualitatif. Il faut savoir tout lire, par exemple, mais il faut savoir quoi relire, ce qui est tout à fait différent. Hein. Si d'ailleurs, lorsqu'on écrit, il faut écrire de façon à donner envie à ceux qui vous lisent pour la première fois de vous relire une fois qu'ils ont terminé. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un classique ? C'est une vieille question dissertative. Un classique, c'est quelque chose que l'on peut relire sans jamais l'épuiser. Exactement comme nous relisions des bandes dessinées, Goscinny, Uderzo, quand nous étions gamins, parce que nous découvrions des détails auxquels nous n'avions pas fait attention à la première lecture, et ainsi de suite. C'est ce qui fait de certains albums de Lucky Luke, hein, La guérison des Dalton, par exemple, pour moi, des chefs-d'œuvre absolument extraordinaires. Voilà. Avec tout à fait la dernière image, une garde d'enfants affolée en disant « Madame Freud, devinez ce que le petit Siggy vient d'essayer de me faire. » Voilà. Il faut savoir que Siggy, c'est Sigmund, etc. Bon, savoir, véritablement, au départ, c'est quantitatif. Et on ne peut pas savoir si on sait un peu. Voilà. Il faut savoir vraiment beaucoup. Mais en même temps, il faut trier dans ce savoir, quitte à ne garder finalement que quelques livres, quelques films, quelques musiques, etc. Je rappelle, c'est un côté presque mystique. Hein. Lorsque je ne sais plus quel émir est arrivé à Alexandrie, il est tombé sur la bibliothèque d'Alexandrie, on est au 7e siècle, et c'était sublime, la bibliothèque d'Alexandrie. Il y avait la totalité du savoir antique qui était là. Et il s'est régalé. Et puis il s'est dit, mais quand même, je vais demander. Il a envoyé, il a passé un coup de fil à l'imam de la Mecque hein, en lui disant, qu'est-ce que je fais ? Et l'imam lui a dit, brûle tout. Même si ça dit la même chose que le Coran, nous avons le Coran. Et si ça dit le contraire, il faut garder le Coran. Voilà. Ça, c'est la vision, on va dire, religieuse, etc. J'en suis pas là, mais entre, les Trois Mousquetaires, les Liaisons dangereuses, le Roger Lenoir et Madame Bovary, je peux me constituer une bibliothèque, comme disait Gide, des 10 livres que j'emporterai sur une île déserte.
Et pour vous, Françoise, un commentaire, une définition ?
Alors, une définition, c'est difficile. Disons que là, moi, j'ai un problème avec les livres, c'est que j'arrive pas à m'en débarrasser. C'est pour ça que j'en ai tant. J'aurais l'impression d'abandonner un enfant, quoi. Ou un frère, ou je sais pas trop. Mais j'ai beaucoup, beaucoup de mal à me séparer des livres, sauf des mauvais, naturellement. Mais même un livre moyen, j'ai tendance, quelquefois, à lui redonner une seconde chance, à le relire quelques années plus tard. Alors, suivant les cas, je vais dire, oh là là, c'est encore plus mauvais que dans mon souvenir. Ou, oh ben non, finalement, c'était plutôt meilleur. Alors ça, je ne sais pas si c'est peut-être la librairie là, qui veut ça. J'ai beaucoup, beaucoup de mal à me débarrasser des livres.
Jean-Paul et Françoise, donc tous les deux, vous m'apparaissez comme des monstres de savoir. Pardonnez-moi l'expression. L'étendue de votre culture générale peut paraître comme presque anormale. À vos yeux, ne sait-on jamais trop de choses, au risque de devenir soi-même une sorte d'ogre et de dominant inquiétant face aux personnes moins mieux armées que vous ?
Alors, je ne sais pas, ça fait deux fois que vous parlez d'ogre. Avec l'ogre, mais allongez-vous là et racontez-nous ce qui vous passe par la tête.
L'ordre de l'appétit.
Voilà, c'est ça. Non, je pense effectivement qu'on ne sait jamais assez de choses, que j'ai de grosses lacunes dans mon savoir, qui est quand même majoritairement un savoir littéraire, historique et philosophique. que dans le domaine des sciences, je n'ai pas du tout suivi depuis les années 70, et c'est peut-être dommage. Je ne pense pas être une ogresse, ni même, là, il faudrait demander à mes anciens étudiants, mais j'ai toujours essayé de transmettre les choses d'une manière qui ne n'écrase pas. Mon auditoire, et je crois que je l'ai fait parce et il le sentait en plus que je l'ai fait avec du bonheur, avec du plaisir. C'est comme la cuisine, hein, finalement, c'est la générosité aussi. On a envie de nourrir ses étudiants, un peu comme quand on fait des bons petits plats pour inviter des amis. Et on va pas essayer de les gaver, hein, l'objectif c'est pas de les gaver. L'objectif, c'est qu'ils trouvent ça bon et qu'ils aient envie éventuellement de reproduire la recette ou de chercher d'autres recettes, de l'accommoder à leur manière. Si vraiment je pense qu'un professeur qui donne l'impression à ses élèves qu'il les écrase totalement de leur savoir, de son savoir, c'est pas un très bon professeur. Alors, ce sera toujours un meilleur professeur que celui qui les écrase de son ignorance, on est bien d'accord. Mais si l'objectif, c'est d'intimider les gens et qu'ils sortent de là complètement découragés en se disant « Oh, y a misère de misère, je n'y arriverai jamais », non. L'objectif, c'est qu'ils sortent du cours en se disant « Chouette, c'était vraiment intéressant et je vais approfondir le sujet. » Là, pendant 2 heures, elle nous a parlé de Balzac ou de Rimbaud ou de Céline ou que sais-je. Je vais creuser de mon côté, chercher, compléter par rapport à ce qu'elle a dit. Là, à ce moment-là, j'aurais réussi mon coup.
Alors, prenons une métaphore sportive. Un jeune sportif débutant se choisit un entraîneur. En général, l'entraîneur est un ancien champion qui a mené l'indice de performance très très haut. Et qui, dans un premier temps, voir Lucas avec Malodou, etc., qui, dans un premier temps, va massacrer, en quelque sorte, son élève. Pour voir jusqu'à quel point il a une forme de résilience, jusqu'à quel point il s'accroche, etc. Dieu sait que les entraîneurs que j'ai pu connaître étaient verbalement au moins violents. Espèce de connard, et tu vas te mettre au bon endroit, etc. Et ça finit par rentrer. Mais enfin, pour savoir, la question du savoir, il y avait une tradition parmi mes élèves de prépa qui était « Brigelli, c'est tout ». Et chaque fois que j'entendais ça, j'ai passé le tableau bien, et puis je me faisais un point au tableau. J'ai dit « ça, vous voyez, c'est votre savoir. Le reste, c'est l'ignorance. Et votre contact entre ce minuscule point et l'ignorance est très limité, donc vous avez l'impression de tout savoir ». C'est comme votre tonton dans les repas familiaux qui vous dit « moi, je vais te dire ». Vous savez bien que c'est un connard, votre tonton. Et puis, je faisais un gigantesque cercle en disant « ça, c'est mon savoir ». Mais vous constatez que la zone de contact entre mon savoir et ce que je ne sais pas est gigantesque. Et donc, plus on en sait, et plus on a le sentiment perpétuel de tout ignorer. C'est la clé de la formule socratique. Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Voilà. Mais à partir du moment où vous avez posé ça, c'est un peu comme la brique fondamentale chez Descartes, vous pouvez reconstruire effectivement le savoir. Il s'agit à la fois d'impressionner les élèves et de les décomplexer complètement. Leur dire « ce que vous avez appris jusqu'à moi, c'est rien ». Je me suis amusé plusieurs fois à, puisque je pouvais décider mon programme en Hippocagne, BL, leur dire « bon, très bien, on va étudier le malade imaginaire ».« Oh, monsieur, on l'a fait en quatrième !»« Ah ouais ?» Et ils s'apercevaient au bout de 10 minutes qu'ils n'avaient jamais rien compris au malade imaginaire. Que, par exemple, le rapport entre la médecine et la religion leur avait été camouflé. Que le rapport à la mort de Molière écrivant ça alors qu'il est déjà en train de cracher ses poumons, etc., c'est quelque chose dont on ne leur avait pas parlé. et qu'en fait, il y avait là-dedans des dizaines de points dont ils n'avaient même jamais eu l'idée. Sur ce, vous leur passez un bout au moins du Malade imaginaire joué par Michel Bouquet, et là, ils réalisent qu'ils sont complètement passés à côté. Et qu'en fait, ils ne savent rien. Voilà, c'est le premier point. Je dis à mes collègues actuellement à l'activité, il faut que vos élèves admettent à un certain moment qu'ils ne savent rien, et sur ce rien, on peut reconstruire. D'où mon opposition, par exemple, à la loi Jospin, qui autorise les élèves à dire tout et n'importe quoi en classe. Mais mon Dieu, taisez-vous. Hein, c'était Pythagore qui exigeait 5 ans de silence de la part de ses élèves, le temps qu'ils aient l'idée d'une bonne question. Voilà. Quand vous entrez dans la franc-maçonnerie, pendant la première année, vous ne devez rien dire. Le seul qui a été dispensé, c'est Voltaire, parce qu'il avait un peu fait ses preuves, quand même, ce garçon. Mais l'élève en classe doit s'absorber dans un néant. Et de ce néant, nous sommes là pour le nourrir.
Pour les auditeurs et les auditrices qui vous verrez comme des modèles, ou un horizon à atteindre, culturellement, professoralement. Quel est l'entraînement après l'ENS et après la prépa que vous vous êtes donné pour continuer à être dans les exigences que vous vous imposez ?
Alors, c'est même pas qu'on se donne un entraînement, c'est qu'on a eu pendant 3 ans une formation en prépa qui est à peu près l'équivalent de celle des sportifs de haut niveau. Donc, grosso modo, quand on est sorti de la CAGNE, on avait beau être à l'équivalent de Bac+3, c'est-à-dire de la licence, on aurait eu le CAPES sans problème, sans avoir à le préparer, et la GREG sans difficulté non plus, en le préparant un peu. Et d'ailleurs, pour la GREG, nous avions fait un groupe d'anciens cagneux et nous avons, là encore, on a retrouvé l'esprit d'équipe, l'esprit rugby, on a bossé ensemble, on a mis nos fiches ensemble, en français, en latin, en grec, on s'est fait des oraux blancs, on a continué à travailler, le groupe d'amis qui s'était créé en Cagne, on a continué à travailler comme on travaillait en prépa pour préparer l'ENS, on a préparé la GREG comme ça. Alors, c'est même pas qu'on se donne une discipline, parce qu'à partir du moment où on a appris à travailler comme ça, on continue à travailler comme ça. Une fois que vous savez jouer au rugby, vous savez jouer au rugby, alors bien sûr, vous vous perfectionnez, vous allez travailler avec votre entraîneur, répéter des combinaisons que vous reproduirez le jour du match, patin couffin, mais vous savez. Et vous savez comment faire. Quand vous faites de la cuisine, à partir d'un certain niveau d'habileté culinaire, même chose, ça n'est plus une astreinte. Ça n'est plus une astreinte. Ça vient, ne vous affolez pas, c'est un petit toutou qui manifeste à côté de moi. Donc, ça n'est pas une astreinte. C'est une seconde nature, en quelque sorte. Hein. C'est cette manière de faire, cette manière de procéder. Mais à aucun moment, c'est une contrainte. Je crois que quand ça devient une contrainte, à ce moment-là, il faut changer de métier.
J'ai jamais eu l'impression de travailler. Quand j'étais en Hippocagne et en Cagne, je faisais le strict minimum. C'est tellement vrai que je n'étais pas autorisé à cuber, c'est-à-dire doubler la Cagne. Ma seule solution, c'est de réussir l'ENS. On a théoriquement en Hippocagne et en Cagne ce qu'on appelle des cols, c'est-à-dire des interrogations orales. J'y suis allé 2 fois, en 2 ans. Parce qu'il y avait des programmes de cinéma beaucoup plus intéressants, il y avait 35 000 choses à faire, etc. Au moment de la GREG, j'ai suivi les cours que nous avions à l'ENS. Alors, pour vous donner une idée quand même de ce que c'est, nous étions 25 entre élèves et auditeurs libres et 24 ont eu la GREG. Voilà. À côté de ça, la fac de Nanterre où nous allions pour certains cours complémentaires, on a eu 2. La fac entière. Hein, sur des centaines et des centaines de candidats. C'est tout, on travaillait davantage, mais je n'ai jamais eu l'impression de travailler. Je veux dire, quand j'ai passé la GREG, j'avais un copain qui était venu passer quelques jours à Paris, où j'habitais à l'époque. On sortait tous les soirs, entrais vers 1h du matin. Je me levais à 5h pour aller à la maison des examens à Arcueil. Et quand je revenais à 2h l'après-midi, il me disait « Mais d'où tu reviens ?» Et j'ai, troisième jour ou quatrième jour, je dis ben, « Je suis en train de passer l'agrégation. » Il a éclaté rire en me disant « C'est pas vrai. » Voilà. Mais il faut que ce soit... il ne faut jamais être percheron, il faut être étalon dans ce métier. Hein, il faut se jouer en quelque sorte des épreuves, épreuves à tous les sens du terme, c'est-à-dire de l'adversité, etc. Savoir que c'est un jeu et, si possible, exceller dans ce jeu.
Dans les trois minutes qui restent à l'émission, j'aimerais vous laisser discuter ensemble sur ce qui vous attache et vous rattache à votre métier de professeur.
Actuellement ?
Que vous avez vécu, ce qui actuellement ou dans votre quand vous y étiez, puisque vous...
on a en cours des satisfactions absolument infinies. Moi, je m'appelle très bien. J'étais jeune prof encore au collège du Neubourg en Normandie et d'un seul coup, j'ai entendu « Oh putain !» Et le « Oh putain », c'était qu'il venait de comprendre une règle grammaticale qui lui avait échappé jusque-là. Voilà. Arriver à produire une illumination au sens où vous avez frotté votre cervelle contre celle de l'élève pour faire du feu. Produire une illumination dans le crâne d'un petit paysan spécialisé dans la culture de la betterave sucrière, ça c'est irremplaçable. Ça n'a pas de prix.
Oui, je dirais à peu près la même chose avec les élèves que j'ai eus dans le Sud Vendée, puisque c'était ma première affectation. Et je dois dire que je revois encore des élèves que j'ai eus en première dans l'année scolaire 1977-1978. Donc, c'est des filles qui ont 60 ans maintenant. Hein. Et qui me renvoie une image de moi qui me fait plaisir rétrospectivement, parce que je n'avais pas du tout conscience. Moi, je débutais, hein, bon, j'étais tout feu, tout flamme, mais je ne calculais pas trop ma façon de faire ni ma façon d'enseigner. Et effectivement, comme dit Jean-Paul, il n'y a rien de plus gratifiant que de se dire bon, ben là, j'ai semé. Hein, j'ai semé des choses. Ça, c'est du bonheur.
Pour reprendre la première émission sur l'amitié, ce que j'entends, c'est de l'affection en direction de vos élèves.
Ah oui, bien sûr, évidemment. Si on n'aime pas les élèves, bon, je pense qu'il vaut mieux faire autre chose. Ceci étant dit, il faut les aimer sans démagogie. Il ne s'agit pas, sous prétexte qu'on les aime, de commencer à baisser la barre. Hein. Tout à l'heure, je parlais du sport et de l'entraînement. Bon, je pense qu'un bon entraîneur, c'est quelqu'un qui arrive. Bon, on le voit bien faire certaines figures exemplaires. Dans ce domaine, qui arrive à créer autour de lui une dynamique qui n'est pas une dynamique haineuse, quoi. Sinon, ça ne fonctionne pas. De notre côté, alors ce qui est absolument insupportable, c'est sous prétexte qu'on aime, entre guillemets, parce qu'en fait, on ne les aime pas, les élèves, c'est d'être démagos, de baisser la barre, d'être faible. Il ne s'agit pas d'être faible, hein, mais de montrer, ne serait-ce qu'en faisant très bien son travail. Je pense que la meilleure preuve d'affection qu'on peut donner à ses élèves, c'est de bien faire son boulot.
Par manque de temps, nous n'aurons pas votre réponse, Jean-Paul Brigelli. Ce second fil du fer, en compagnie de Jean-Paul Brigelli, donc, et de Françoise Guichard, est terminé. Au revoir.